Bien, je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2. Nous allons continuer dans la deuxième partie de ce chapitre. Et nous allons nous attarder ce matin sur le verset 13. Et on va lire à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre 2. Éphésiens 2. À partir du verset 11. Donc après avoir parlé de ce que Dieu a fait, l'intervention de Dieu qui a fait de nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, il nous a rendus vivants avec Christ. Paul continue au verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et jusque-là, la parole de Dieu. Quand on étudie la parole de Dieu, quand on étudie la Bible, il y a des moments où on se pose la question, qu'est-ce que l'Écriture dit, qu'est-ce que la Bible dit, mais il y a d'autres moments où on se pose une autre question. Pourquoi est-ce que l'Écriture dit telle ou telle chose? Et c'est en particulier vrai quand on étudie les lettres de l'apôtre Paul, que l'on pourrait considérer comme le premier missionnaire et le premier théologien de l'Église au premier siècle. Et en particulier, on pose cette question, pourquoi est-ce que Paul dit ces choses quand on lit cette lettre, qui est considérée comme étant la plus complète des lettres de l'apôtre Paul, et dans laquelle il révèle une sagesse pastorale qui est différente de ce que l'on peut entendre aujourd'hui. Si on posait la question aujourd'hui dans beaucoup d'églises, de quoi les croyants ont-ils besoin pour grandir spirituellement et pour éviter les dangers de la vie, la plupart des réponses qu'on entendrait seraient radicalement différentes que celles de l'apôtre Paul. On parlerait de techniques ou de comportements que les croyants devraient adopter. Et Paul, au contraire, pense que nous avons besoin de mieux connaître Dieu, de mieux savoir ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et le souci de Paul est toujours théologique. Il sait qu'une bonne théologie produit un raisonnement clair, et ce raisonnement clair va conduire vers une vie qui porte du fruit. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, veulent entendre quelque chose qui est centré sur eux-mêmes, au sujet de leur vie personnelle, au sujet de la vie personnelle de celui qui les dirige. Mais Paul accorde peu de choses, peu de temps à ces choses. Il est vraiment centré sur Dieu, sur ce que Dieu a fait. Il veut que ses lecteurs soient aussi centrés sur Dieu que lui ne l'était. Et c'est pour ça que Paul a poussé cette première exhortation que nous avons vue la dernière fois. Souvenez-vous, rappelez-vous, souvenez-vous de ce que Dieu a fait dans les versets 11 et 12. Souvenez-vous de ce que vous étiez sans Christ et rappelez-vous maintenant ce que vous êtes en Christ. On a vu la dernière fois les versets 11 et 12 où Paul souligne, on pourrait dire, le côté négatif de cette équation, de ce que nous étions sans Christ. Nous étions étrangers au peuple de Dieu. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est le côté négatif de l'équation. Le verset 13, lui, nous donne le côté positif. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Paul nous dit, souvenez-vous, rappelez-vous, prenez conscience de ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ. De quoi vous avez été sauvés? Pourquoi vous avez été sauvés? Pourquoi est-ce que c'est important que nous nous focalisions sur ces choses? Martin Lloyd-Jones, le prédicateur gallois du XXe siècle, écrit ceci, ou a prêché ceci, et c'est retranscrit dans ses livres. Il dit, le seul chemin par lequel nous pouvons voir la grandeur de ce salut, c'est ce chemin. Alors que nous prenons ce chemin, il nous conduira vers la joie et la réjouissance, la louange et la reconnaissance, vers une assurance et une confiance en Christ que rien ne peut ébranler. Mais pour en arriver là, nous devons réaliser deux choses. Nous devons voir ce que nous étions sans Christ, et ensuite nous devons voir ce qui est vrai de nous maintenant que nous appartenons à Christ. Là, ça c'est l'importance, et ça c'est le grand contraste, et c'est le premier point, le grand contraste. Et Paul utilise une illustration que l'on trouve dans l'Ancien Testament, et en particulier dans le Temple. Alors, je ne pense pas que vous avez constamment avec vous une image de la construction du Temple à Jérusalem, mais le Temple était composé de différentes zones, et l'accès était de plus en plus restreint. La zone où l'accès était le plus restreint était la zone qui était au centre. C'était le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans ce lieu, et lui-même ne pouvait entrer qu'une seule fois par an. Ce lieu très saint, il y avait trois murs et ensuite le voile, un voile très épais, un voile qui le séparait, ce lieu, de l'autre lieu qu'on appelle le lieu saint. Et là, les sacrificateurs, on l'a lu tout à l'heure dans le passage d'Hébreux, les sacrificateurs officiaient tous les jours. Ils veillaient que les chandeliers étaient bien allumés, que l'encens brûlait, que les pains de proposition étaient toujours frais. À l'extérieur du temple, donc composé de ce lieu très saint et du lieu saint, à l'extérieur, il y avait la cour des sacrificateurs, et là on trouvait l'autel pour les sacrifices. Et encore une fois, que les sacrificateurs, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient accès à ce lieu. Ensuite, il y avait toute une succession de cours. Il y avait la cour des Israélites ou la cour d'Israël qui n'était séparée de la cour des sacrificateurs que par un mur qui n'était pas très très haut. Et là, on retrouvait les hommes israélites qui s'étaient purifiés au sens rituel, c'est-à-dire qu'ils avaient fait ce que la loi demandait. Ensuite, il y avait à l'est la cour des femmes, où toutes les femmes israélites pouvaient venir. Au-delà de cette cour des femmes, il y avait la cour des gentils, la cour des non-juifs, et qui était séparée de la cour des femmes par un mur beaucoup plus haut. Et sur ce mur, il y avait une inscription en grec et en latin qui interdisait aux non-juifs, aux gentils, d'aller au-delà du mur, d'entrer dans la cour des femmes. Sinon, s'ils le faisaient, ils risquaient la mort. Et c'est sans doute à cela que pense l'apôtre Paul quand il parle au verset 14 de cette séparation, ce mur de séparation, de l'inimitié qui existait entre les juifs et les non-juifs. Mais déjà là, ça nous apprend deux choses. La première, c'est que le vrai problème des non-juifs, des gentils, comme on les appelle, des non-juifs, Ce n'était pas leur séparation d'avec les Israélites. C'était leur séparation d'avec Dieu. C'est ce que souligne ce mur de séparation. C'est le même problème des personnes qui sont en dehors de l'Église aujourd'hui. Sont séparés de Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas ses promesses. Ils ne font pas partie de ce peuple, on l'a souligné la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de fondement solide pour une espérance qui dure. Ils n'ont aucune force pour combattre le péché. La meilleure chose que pouvaient atteindre les gentils, les païens ou les grecs, les incroyants d'aujourd'hui, c'est soit un stoïcisme qui est rempli de désespoir, soit un hédonisme qui cherche à éviter ce désespoir. Et le point que souligne l'apôtre Paul à ces chrétiens d'origine non-juive, d'origine païenne, c'est qu'avant qu'ils viennent à connaître le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient sans Dieu, dans le vrai sens du terme, comme les incroyants d'aujourd'hui. Mais les réponses aux questions de la vie ne se trouvent qu'en Dieu. Les solutions aux problèmes de la vie ne viennent que de Dieu. Le but qui donne de la valeur à la vie, c'est la gloire de Dieu. Mais ces personnes ignorent ces choses. Elles sont aveugles à ces choses. Et nous l'étions aussi avant de venir à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose que souligne ce mur de séparation. La deuxième que souligne cette illustration de temple et cette séparation, c'est qu'il y a une différence absolue entre les croyants et les non-croyants. Les juifs et les gentils, les non-juifs, se ressemblaient sur beaucoup de points. Mais il y avait cette différence cruciale. Les non-juifs étaient séparés de Dieu. Il y avait ce mur de séparation. Les juifs, eux, avaient un accès auprès de Dieu. Certains juifs étaient peut-être plus proches de Dieu que d'autres, mais ils avaient tous un accès. Ils pouvaient tous venir dans le temple. Ils avaient cette cour qui leur était réservée au-delà du mur de séparation. Certains non-juifs pouvaient être plus éloignés de Dieu que d'autres, mais aucun ne pouvait aller au-delà de ce mur. Aucun ne pouvait aller au-delà de ce mur de séparation et avoir accès au temple. Personne. Et c'est ce qui va définir aujourd'hui le véritable christianisme. Le véritable christianisme, l'évangile, amène des personnes au-delà de toutes les barrières et nous amène jusque dans la présence de Dieu, jusque dans le lieu très saint, pour connaître, pour vivre à la lumière et à la faveur de Dieu. Toutes les autres personnes qui sont en dehors de Christ sont en dehors, sont au-delà de ce mur que l'on pourrait définir comme étant la loi de Dieu. La loi que nous avons, comme on a vu en Romains chapitre 3, qui condamne tout le monde, qui ferme la bouche à tout le monde. Toutes ces personnes sont loin de Dieu, sont étrangers au peuple de Dieu, étrangers aux alliances de la promesse. La différence fondamentale, ce n'est pas que les chrétiens sont de meilleures personnes ou ce sont des personnes qui ont réussi à s'améliorer. Non, il y a très souvent un changement dans la vie. Mais cela vient de ce que Dieu est à l'œuvre dans la vie du croyant, même si le croyant est loin d'être la personne qu'il devrait être. Mais la différence, c'est cette union avec Christ, cette union par la foi, qui fait que ceux qui étaient éloignés de Dieu font maintenant partie de ceux qui ont été rapprochés de Dieu. On pourrait dire que toute la lettre aux Éphésiens est écrite pour souligner ce point. Ce Paul, nous avons vu au verset 12, nous dit que les personnes sans Christ, ce qu'elles manquent, mais plus loin, il va parler de ce que les personnes avec Christ possèdent. D'abord, ils disent que que les païens, que les gentils, les non-juifs étaient sans Christ. Mais au chapitre 1, verset 13, il dit qu'après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et que maintenant nous sommes en lui. Au verset 12, chapitre 2, il a souligné que les gentils, les non-juifs, étaient privés du droit de cité en Israël. Mais maintenant, au verset 19 de ce même chapitre 2, il dit: Vous n'êtes plus étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Au verset 12, il a dit que nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Et au chapitre 3, verset 16, il dit que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, qu'ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Il continue, il dit que sans Christ, nous étions sans espérance. Mais au chapitre 1 et dans les versets 11 à 14, Paul écrit qu'en lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Avant, nous étions sans Dieu dans le monde. Au verset 19 de ce chapitre 2, il dit que nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu. Voilà ce qu'est l'Évangile, voilà ce que est le véritable christianisme. Il souligne qu'il n'y a en fait que deux types de personnes dans le monde. Ceux qui sont sans Dieu, sans Christ, sans espérance, étrangers au peuple de Dieu, étrangers à la promesse, aux alliances de la promesse. Et il y a ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, qui ont un accès dans la présence de Dieu par la foi en Christ, qui connaissent les alliances de la promesse et qui jouissent de cette intimité avec Dieu. Et Paul souligne donc ces bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, que nous recevons par grâce. Ce contraste que souligne Paul entre ce que nous étions sans Christ et ce que nous sommes avec Christ, ce contraste a pour but de nous rendre reconnaissants envers Dieu, mais aussi de nous donner cette confiance en lui et ce repos de nos cœurs. Et pour décrire les privilèges que nous avons en Christ, Paul utilise un seul mot au verset 13, et ce mot, c'est ce verbe rapprocher. C'est le deuxième grand point. Rapprocher. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et ce terme souligne surtout que le salut est avant tout une question de réconciliation avec Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Maintenant, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Un père n'est pas responsable pour tous les enfants de la terre, mais seulement des siens. Il travaille pour pourvoir à leurs besoins, pour leur donner un toit, pour mettre de la nourriture sur la table, pour apporter des habits, pour les éduquer, pour apporter, pour subvenir à leurs besoins. Et pour le croyant, c'est ce qui se passe avec Dieu. Nous avons été amenés dans la famille de Dieu. Et Dieu accepte cette responsabilité, prend cette responsabilité de s'occuper, de prendre soin de notre âme, de subvenir à nos besoins. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien de mauvais qui va nous arriver parce que nous sommes dans un monde qui est déçu. Mais cela veut surtout dire que dans toutes les situations, nous découvrirons que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il va nous discipliner parce qu'il est responsable pour cela. Mais il ne négligera rien de ce que nous avons besoin. Il va sécuriser notre avenir. Il va sécuriser notre croissance et notre protection. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui que Dieu est le Père de tous, mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit qu'il est le Créateur, effectivement, de tous, mais qu'il n'est pas le Père de tous. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, nous lisons: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, et c'est clairement parlé ici de Christ, à tous ceux qui ont reçu la parole qui est Christ, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. L'idée principale de Paul, donc, c'est la réconciliation, c'est-à-dire l'accès à Dieu. Les enfants ont accès auprès à leur père. Les chrétiens ont un accès à Dieu. Même les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient séparés d'un contact direct de la présence de Dieu. Rappelez-vous, il y avait ce voile qui séparait, qui isolait le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait aller au-delà du voile une seule fois dans l'année. Tous les autres sacrificateurs pouvaient entrer dans le lieu saint, mais pas dans le lieu très saint. Par contraste, le croyant même, le croyant le plus simple, possède un accès qui est plus grand que l'accès que possédaient les sacrificateurs, parce que le voile est enlevé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un accès libre dans la présence de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un accès qui est permanent par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons être sûrs d'être accueillis dans la présence de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés par le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une relation avec Dieu. Nous commençons à le connaître, à savoir comment il est, à quoi il ressemble. Nous apprenons des choses non seulement au sujet de lui, mais nous grandissons dans une intimité avec lui. Et c'est le but des promesses. Jérémie 31, qui est cité en Hébreu chapitre 8, 10 et 11. La promesse que Dieu fait, c'était le but ultime. « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Tous me connaîtront. » Avoir accès, connaître Dieu. Aujourd'hui, on ne le réalise qu'en partie, mais dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 3 et 4, nous avons cette réalisation totale de cette bénédiction le jour où nous serons dans la présence de Dieu. Et Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous aurons un accès libre, permanent. Nous l'avons déjà par la foi, nous l'avons déjà dans la prière. Nous pouvons nous présenter devant Dieu par la foi librement, de manière permanente, à n'importe quelle heure de la journée. Mais Paul nous dit que ce qui a produit ce grand changement, ce qui a fait que nous qui étions éloignés de Dieu, nous avons maintenant cet accès dans la présence de Dieu, nous avons été rapprochés de Dieu. Paul nous souligne que ce qui a fait cela, c'est le sang de Christ. Verset 13. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est le troisième point. La réconciliation est nécessaire quand deux parties s'embrouillent. Et la brouille qui était entre nous et Dieu, c'est notre péché. Dieu a été offensé. C'est un problème qui doit être résolu avant de pouvoir entrer en communion avec Dieu, avant de pouvoir connaître les bénédictions de Dieu. Dieu est saint et la réalité de notre péché se tient entre lui et nous. Même dans des relations humaines entre des personnes, et s'il y a un problème réel, un problème profond entre deux personnes, elles ne seront pas capables de se remettre ensemble, pas réellement, pas de manière permanente, pas de tout cœur. Elles ne pourront le faire que si le problème est résolu. Un commentateur le résume ainsi, il dit « Si Dieu et l'homme doivent être réconciliés, ce n'est pas simplement en ignorant le péché, mais c'est seulement en vainquant le péché. » Alors comment Dieu a-t-il résolu le problème de notre péché. Comment est-ce que Dieu peut-il nous réconcilier à lui-même, nous qui, par nature, étions des enfants de colère comme les autres? Paul le dit, c'est par le sang de Christ. Il y a eu une expiation, il y a eu un sacrifice qui a été offert, un sacrifice qui est acceptable aux yeux de Dieu. En fait, c'est le sacrifice que Dieu lui-même avait ordonné et pour lequel il a envoyé son Fils dans le monde. En 2 Corinthiens 5, verset 19, Paul dit ceci, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il explique dans les versets 20 et 21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il devienne péché pour nous, c'est-à-dire qu'il prenne sur lui tous nos péchés et que nous soyons revêtus de sa justice parfaite et donc que nous soyons réconciliés avec Dieu. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, on lit en Matthieu 27, verset 51, que le voile du temple a été déchiré sur toute sa hauteur. C'était là la barrière la plus sainte pour les Juifs, celle qui empêchait même les sacrificateurs d'entrer dans la présence même de Dieu. Mais le déchirement de ce voile déclare que maintenant tous peuvent entrer dans la présence de Dieu par la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a versé son sang pour nos péchés. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, qui que nous soyons. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert ce chemin vers Dieu. Et c'est le seul chemin vers Dieu. Paul ne nous dit pas que nous pouvons nous approcher de Dieu simplement parce que nous avons été créés à son image, parce que l'humanité entière est marquée par le péché, souillée par le péché. Paul ne nous dit pas que nous pouvons nous approcher de Dieu parce que nous sommes une bonne personne. Beaucoup de personnes s'imaginent cela aujourd'hui, mais c'est terrible, c'est une tragédie. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas de bonnes personnes, nous sommes des pécheurs, des enfants de colère. Et ce n'est pas notre point de vue qui est teinté par le péché, teinté par notre orgueil, qui nous permet de penser que nous sommes de bonnes personnes, ce n'est pas ce point de vue-là qui va changer le point de vue de Dieu. Dieu nous déclare pécheurs, séparés de lui, enfants de colère. Nous l'avons lu en Romains chapitre 3, nous avons vu cela. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Paul ne nous dit pas que nous pouvons nous approcher de Dieu par la religion, en étant une personne pieuse, en prenant part aux différents rituels. Il n'y a aucune expérience mystique, même si l'expérience mystique nous remplit d'un sentiment quelque peu religieux. Aucune expérience ne peut vaincre la barrière du péché. Seul le sang de Christ peut nous réconcilier avec Dieu et nous rapprocher de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père, nous rapproche de lui, pas par de bonnes intentions. Pas simplement en nous disant que Dieu est amour, pas simplement en nous prêchant le sermon sur la montagne. Non, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour mourir à notre place, pour faire l'expiation de nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ explique cela très clairement dans une de ses paraboles. Vous la connaissez sans doute. Il parle de deux hommes qui sont allés au temple. L'un était pharisien, faisait partie de cette élite religieuse de Jérusalem. L'autre était un publicain, un collecteur d'impôts, considéré par beaucoup de Juifs comme étant la racaille spirituelle de la nation, collecter des impôts pour les Romains. Jésus dit que le pharisien se tenait dans le temple et disait ceci, on peut lire ça en Luc 18, les versets 10 à 13, il dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et après s'être enorgueilli à son sujet, le publicain va s'enorgueillir au sujet de ce qu'il fait et dit: je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le pharisien était confiant que, grâce à son pédigré, grâce à sa religion, à sa moralité, Dieu allait certainement l'accepter. L'approche du publicain est radicalement différente. Le publicain, qui se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. L'expression sois apaisé fait référence au sacrifice qu'on offrait dans le temple. En fait, on pourrait traduire cette expression sois apaisé par cette expression sois propitié envers moi. Le propitiatoire, rappelez-vous, c'était cet endroit sur l'arche de l'Alliance où le souverain sacrificateur offrait le sang du sacrifice qui venait d'être offert. Il venait dans le temple, le souverain sacrificateur, une fois dans l'année, entrait dans le lieu très saint, s'approchait de l'arche de l'Alliance et versait le sang sur le propitiatoire. À la place de qui voudrait-on être? Qui est-ce qui allait être reçu par Dieu? Est-ce que c'est l'homme moral, l'homme religieux, l'homme de bonne famille avec ses bonnes relations qui s'est avancé devant Dieu en s'appuyant sur ces choses? Ou est-ce que c'est l'homme qui a reconnu qu'il n'était qu'un échec, qu'il ne pouvait frapper sa poitrine en demandant à Dieu de pardonner ses péchés, en s'appuyant sur le sang de l'expiation, le sang de la propitiation, ce sang qui a été versé sur le propitiatoire? Jésus conclut la parabole en disant: je vous le dis, le publicain, celui-ci, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu, nous ne pouvons être réconciliés avec Dieu que par le sang de Jésus-Christ. Et cette réalité s'applique à tout le monde. On l'a vu en Romains chapitre 3, versets 23 et suivant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Jésus est mort comme propitiation. Par son sang, il détourne la colère de Dieu. Tous ceux qui croient en lui ne sont plus sous la colère de Dieu, ne sont plus les enfants de colère. Christ a subi cette colère à leur place. Ceux qui ne croient pas en Christ vont un jour subir cette colère de Dieu au jour du jugement. Les gens croient beaucoup de choses, mais il y a une seule qui nous rapproche de Dieu, une seule qui nous réconcilie avec Dieu. C'est la foi dans le sang de Christ, la foi dans l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie, dans cette mort propitiatoire, dans cette mort expiatoire, cette mort qui nous accorde le pardon de nos péchés, qui nous donne la réconciliation avec Dieu. Si on croit cela, si on croit dans la mort du Fils de Dieu pour nous ramener auprès du Père, nous qui étions éloignés, sans espérance, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas encore les personnes que nous devrions être, parce que Dieu est à l'œuvre, il va nous faire grandir, il nous transforme à l'image de son Fils. Mais les bénédictions que Dieu nous accorde en Christ nous appartiennent pour toujours. Pas parce que nous les avons méritées, mais parce que Christ les a méritées pour nous. Pierre nous le dit en 1 Pierre 2, en 1 Pierre 1, pardon, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous pouvons donc cesser de chercher à gagner notre place, notre faveur avec Dieu. Cesser de nous inquiéter au sujet de notre salut avec Dieu. Nous pouvons au contraire nous reposer dans la sécurité, sachant que nous qui étions éloignés de Dieu à cause de notre péché, nous avons été rapprochés, réconciliés avec Dieu par le sang de Christ. Qu'est-ce que l'on peut dire pour terminer? L'enseignement de Paul nous soulève une question importante. Est-ce que nous sommes toujours séparés de Christ dans l'incrédulité? Ou est-ce que nous sommes en Christ, avec Christ, unis avec lui par la foi? C'est une question qui a des conséquences éternelles. On peut penser à la scène de la crucifixion. La croix du Seigneur Jésus-Christ était au centre. Il y avait un brigand de chaque côté. Ces deux hommes qui étaient autour, qui étaient de chaque côté du Seigneur Jésus-Christ, représentent toute l'humanité. Ils avaient une chose en commun, comme nous. Ils étaient coupables. Ils étaient prêts à être condamnés, à subir leur condamnation. Paul le dit, il n'y a aucune différence. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ces deux hommes représentent l'humanité. Mais il y avait une différence entre ces deux hommes. Une différence qui divise l'humanité en deux groupes. Un des hommes a crié à Christ pour être sauvé. Ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui, là, sur la croix, était incapable de faire une bonne œuvre, de faire quelque chose pour mériter son salut. Il était cloué sur la croix, incapable de bouger. Mais par la foi, il a crié au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui répond, Luc 23, verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et c'est la même chose aujourd'hui. Tout pécheur qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, celui dans ce Sauveur qui est mort pour les péchés, reçoit le pardon de ses péchés, la réconciliation avec Dieu. L'autre brigand a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est moqué de lui. Il est mort dans ses péchés. Et il a reçu la punition éternelle qu'il a méritée et que méritent tous ceux qui lui ressemblent. Il y a deux types de personnes dans le monde. À qui ressemblons-nous? C'est le contraste que Paul souligne ici. Si nous sommes croyants, cela ne veut pas dire que tout sera rose pour nous, mais cela veut dire que nous ne sommes plus éloignés de Dieu. Nous étions condamnés, nous étions étrangers, nous étions séparés de ses bénédictions, mais maintenant Dieu nous a rapprochés par le sang de Christ. Et même si nous chutons, même si nous sommes enclins à faillir, nous pouvons nous reposer dans ce sang de Christ pour notre relation avec Dieu. Par ce sang de Christ qui a été versé pour nous, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous a lavé de nos péchés, qui nous lave de nos péchés, nous avons accès dans la présence de Dieu. Et nous deviendrons plus forts en vivant dans cette communion avec lui. Nous aurons plus de puissance pour combattre le péché. Nous serons transformés alors que nous avançons avec lui. Notre esprit sera renouvelé alors que nous allons avancer, nous allons progresser avec lui. Paul rappelle à ces chrétiens d'origine non juive et nous rappelle ce matin qu'il y avait ce mur de séparation. Mais que maintenant nous avons accès dans la présence de Dieu, qu'il n'y a plus cette séparation. La Bible se termine avec l'image de la nouvelle Jérusalem, de cette nouvelle cité qui, elle, est entourée d'un mur. Apocalypse 21, versets 22 et 23. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Voilà la ville, voilà la destination vers laquelle tous ceux qui sont rapprochés de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ voilà la ville vers laquelle nous nous dirigeons. Nous pouvons déjà goûter de cette réalité spirituellement dans la prière, la parole de Dieu, l'étude de la parole par la communion fraternelle. Mais quand on lit Apocalypse 21, on voit que cette ville est entourée d'une muraille. On a dit que... Alors, oui, voilà, cette ville était entourée de murailles. Comment entrer dans cette ville? Comment s'approcher de Dieu? Apocalypse 22, verset 14 nous dit: Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes, eux seuls, mais tous ceux qui lavent leurs robes dans le sang de Christ peuvent entrer, peuvent s'approcher de Dieu, connaître ses bénédictions pour toujours. On a dit au début que les murs du temple avaient cette inscription qui interdisait aux non-juifs d'entrer dans le temple sous peine de mort. Mais les murs de cette nouvelle Jérusalem, dans laquelle brille la lumière de Christ pour toujours, ces murs ne sont pas couverts d'avertissements, mais plutôt d'invitations à venir à Christ par la foi. Le Seigneur lui-même lance cette invitation, Apocalypse 22, verset 17: que celui qui a soif vienne, que celui qui veut qui prenne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est donc la foi dans l'œuvre de Christ, c'est par la foi dans son œuvre accomplie à la croix que nous pouvons nous approcher de Dieu, nous qui étions autrefois éloignés. C'est par la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, que nous sommes réconciliés avec Dieu, pardonnés de nos péchés, adoptés dans la famille de Dieu et gardés pour toujours. Et ce n'est que dans le Seigneur, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre, dans sa mort, une fois pour toutes, que nous trouvons le repos que nos âmes recherchent, un repos qui dure parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Il n'y a absolument rien à rajouter à son œuvre. Son œuvre est parfaite et nous pouvons donc connaître le repos de nos âmes en nous reposant dans son œuvre. Cette œuvre qu'il a faite une fois pour toutes. Que Dieu donc nous aide à comprendre ces réalités, qu'il nous aide à saisir ces choses et qu'il bénisse sa parole en nos cœurs ce matin. Amen.